Deuxième partie, chapitre 1, suite. Peut-être pensait-il que Nicolas Vsevolodovitch, laissé seul, allait frapper le mur à coups de poing. Et sans doute il aurait été bien aise de s'en assurer, si cela avait été possible. Mais son attente aurait été trompée. Nicolas Vsevolodovitch conserva son calme. Pendant 2 minutes, il garda la position qu'il occupait tout à l'heure, debout devant la table, et parut très songeur. Mais bientôt, un vague et froid sourire se montra sur ses lèvres. Il reprit lentement son ancienne place sur le coin du divan et ferma les yeux comme par l'effet de la fatigue. Une partie de la lettre, incomplètement cachée sous le presse-papier, était toujours en évidence. Il ne fit rien pour la dérober à la vue. Le sommeil ne tarda pas à s'emparer de lui. Après le départ de Pierre Stepanovitch, qui, contrairement à sa promesse, s'était retiré sans voir Barbara Petrovna, celle-ci, fort tourmentée depuis quelques jours, ne put y tenir et prit sur elle de se rendre auprès de son fils, bien qu'elle ne fût pas autorisée à pénétrer en ce moment dans la chambre du jeune homme. « Ne me dira-t-il pas enfin quelque chose de définitif ?» se demandait-elle. Comme tantôt, elle frappa doucement à la porte et, ne recevant pas de réponse, se hasarda à ouvrir. À la vue de Nicolas, assis et absolument immobile, elle s'approcha avec précaution du divan. Son cœur battait très fort. C'était pour Barbara Petrovna une chose surprenante que son fils eût pu s'endormir si vite et d'un sommeil si profond dans une position à demi verticale. Sa respiration était presque imperceptible, son visage était pâle et sévère, mais complètement inanimé. Ses sourcils étaient quelque peu froncés. Dans cet état, il ressemblait tout à fait à une figure de cire. La générale, retenant son souffle, resta penchée au-dessus de lui pendant 3 minutes. Puis, saisie de peur, elle s'éloigna sur la pointe des pieds. Avant de quitter la chambre, elle fit le signe de la croix sur le dormeur et se retira sans avoir été remarquée, emportant de ce spectacle une nouvelle sensation d'angoisse. Pendant longtemps, pendant plus d'une heure, Nicolas Vsevolodovitch demeura plongé dans ce lourd sommeil. Pas un muscle de son visage ne remuait. Pas la moindre trace d'activité motrice ne se manifestait dans toute sa personne. Ses sourcils étaient toujours rapprochés, donnant ainsi à sa figure une expression de dureté. Si Barbara Petrovna était restée encore 3 minutes, il est probable qu'elle n'aurait pu supporter la terrifiante impression de cette immobilité léthargique et qu'elle aurait réveillé son fils. Tout à coup, celui-ci ouvrit les yeux. Mais durant 10 minutes, il ne fit aucun mouvement. Il semblait considérer avec une curiosité obstinée un objet placé dans un coin de la chambre, quoiqu'il n'y eût là rien de nouveau, rien qui dût attirer particulièrement son attention. À la fin, retentit le timbre d'une horloge sonnant un coup. Nicolas Vsevolodovitch tourna la tête avec une certaine inquiétude pour regarder l'heure au cadran. Mais presque aussitôt s'ouvrit la porte de derrière qui donnait accès dans le corridor et le valet de chambre Alexis Egorovitch se montra. Il tenait d'une main un paletot chaud, une écharpe et un chapeau. De l'autre, une petite assiette d'argent sur laquelle se trouvait une lettre. « Il est 9h30, » dit-il à voix basse. Et après avoir déposé sur une chaise dans un coin les vêtements qu'il avait apportés, il présenta l'assiette à son maître. La lettre n'était pas cachetée et ne contenait que 2 lignes écrites au crayon. Quand Nicolas Vsevolodovitch les eut lus, il prit aussi un crayon sur la table, écrivit deux mots au bas du billet et replaça celui-ci sur l'assiette. « Tu remettras cela dès que je serai sorti. Habille-moi » dit-il, et il se leva. Remarquant qu'il avait sur lui un léger veston de velours, il réfléchit un instant et se fit donner une redingote de drap, vêtement plus convenable pour les visites du soir. Lorsque sa toilette fut entièrement terminée, il ferma la porte par laquelle était entrée Barbara Petrovna, prit la lettre cachetée sous le presse-papier, et, sans mot dire, passa dans le corridor en compagnie d'Alexis Egorovitch. Puis tous deux descendirent l'étroit escalier de derrière et débouchèrent dans le vestibule conduisant au jardin. Une petite lanterne et un grand parapluie avaient été déposés d'avance dans un coin de ce vestibule. Avec cette pluie, la boue rend les rues impraticables, observa le domestique. C'était une dernière et timide tentative qu'il faisait pour décider son barine à ne pas sortir. Mais, ouvrant le parapluie, Nicolas Vsevolodovitch pénétra silencieusement dans le vieux jardin, alors humide et noir comme une cave. Le vent mugissait et secouait les cimes des arbres à demi dépouillés. Les petits chemins sablés étaient fangeux et glissants. Alexis Egorovitch, en habit et sans chapeau, précédait son maître à la distance de 3 pas pour l'éclairer avec la lanterne. « Ne remarquera-t-on rien ?» demanda brusquement Nicolas Vsevolodovitch. « Des fenêtres, on ne verra rien. D'ailleurs, toutes les précautions ont été prises d'avance, » répondit d'un ton bas et mesuré le domestique. « Ma mère est couchée ?» Elle s'est retirée dans sa chambre à 9 heures précises, selon son habitude depuis quelques jours, et il lui est impossible maintenant de rien savoir. À quelle heure faut-il vous attendre ? Se permit-il ensuite de demander. Je rentrerai à 1 heure ou 1 heure et demie, en tout cas avant 2 heures. Bien. S'engageant dans des sentiers sinueux, ils firent le tour du jardin, que tous deux connaissaient très bien, et arrivèrent à l'angle du mur d'enceinte où se trouvait une petite porte donnant issue dans une étroite ruelle. Cette porte était presque toujours fermée, mais Alexis Egorovitch en avait maintenant la clé dans ses mains. « Ne va-t-elle pas crier quand on l'ouvrira ?» observa Nicolas Vsevolodovitch. Le valet de chambre répondit que, la veille encore, il y avait mis de l'huile, de même qu'aujourd'hui. Il était déjà tout trempé. Après avoir ouvert la porte, il tendit la clé à son maître. « Si vous allez loin, je dois vous prévenir que je n'ai aucune confiance dans la populace d'ici. C'est dans les impasses en particulier que les mauvaises rencontres sont à craindre, surtout de l'autre côté de l'eau. » ne put s'empêcher de faire remarquer Alexis Egorovitch. C'était un vieux serviteur qui avait été jadis le diatka de Nicolas Vsevolodovitch. Homme sérieux et rigide, il aimait à entendre et à lire la parole de Dieu. « Ne t'inquiète pas, Alexis Egorovitch. Dieu vous bénisse, monsieur, si toutefois vous ne projetez que de bonnes actions. Comment ? » fit en s'arrêtant Nicolas Vsevolodovitch, qui était déjà sorti du jardin. Alexis Egorovitch renouvela d'une voix ferme le souhait qu'il venait de formuler. Jamais auparavant il ne se serait permis de tenir un tel langage devant son maître. Nicolas Vsevolodovitch ferma la porte, mit la clé dans sa poche et s'engagea dans le Péhéroulok, où à chaque pas il enfonçait dans la boue jusqu'au-dessus de la cheville. À la fin, il arriva à une rue pavée, longue et déserte. Il connaissait la ville comme ses 5 doigts, mais la rue de l'Épiphanie était encore loin. Il était plus de 10 heures quand il s'arrêta devant la porte fermée de la vieille et sombre maison Philippov. Au rez-de-chaussée, où plus personne n'habitait depuis le départ des Lebiatkin, les fenêtres étaient condamnées, mais on apercevait de la lumière dans la mezzanine, chez Chatov. Comme il n'y avait pas de sonnette, Nicolas Vsevolodovitch frappa à la porte. Une petite fenêtre s'ouvrit et Chatov se pencha à la croisée pour regarder dans la rue. L'obscurité était telle que pendant une minute il ne put rien distinguer. « C'est vous ? » demanda-t-il tout à coup. « Oui, » répondit le visiteur. Chatov ferma la fenêtre et alla ouvrir la grande porte. Nicolas Vsevolodovitch franchit le seuil et, sans dire un mot, se dirigea vers le pavillon occupé par Kirillov. Là, tout était ouvert. L'obscurité régnait dans le vestibule et dans les deux premières pièces. Mais la dernière, où Kirillov buvait son thé, était éclairée. Des rires et des cris étranges s'y faisaient entendre. Nicolas Vsevolodovitch alla du côté où il apercevait la lumière. Toutefois, avant d'entrer, il s'arrêta sur le seuil. Le thé se trouvait sur la table. La parente du propriétaire était debout au milieu de la chambre. Tête nue, sans bas, à ses pieds chaussés de savates, la vieille n'avait pour tout vêtement qu'un jupon et une sorte de mantelet en peau de lièvre. Elle tenait dans ses bras un enfant de 18 mois. Le baby, en chemise et les pieds nus, venait d'être retiré de son berceau. Il avait les joues très colorées et ses petits cheveux blancs étaient ébouriffés. Sans doute il avait pleuré un peu auparavant, car on voyait encore des traces de larmes au-dessous de ses yeux. Mais en ce moment, il tendait ses petits bras, frappait ses mains l'une contre l'autre et riait avec des sanglots, comme cela arrive aux enfants de cet âge. Devant lui, Kirillov jetait par terre une grosse balle élastique qui rebondissait jusqu'au plafond pour retomber ensuite sur le plancher. Le baby criait « Balle ! Balle !» Kirillov rattrapait la balle et la lui donnait. Alors l'enfant la lançait lui-même avec ses petites mains maladroites, et de nouveau Kirillov courait la ramasser. À la fin, la balle alla rouler sous une armoire. « Balle ! Balle !» cria le moutard. Kirillov, se baissant jusqu'à terre, étendit le bras sous l'armoire pour tâcher de trouver la balle. Nicolas Vsevolodovitch entra dans la chambre. À la vue du visiteur, l'enfant se mit à pousser des cris et se serra contre la vieille, qui se hâta de l'emporter. Kirillov se releva, la balle en main. « Stavrogin ? » dit-il sans paraître aucunement surpris de cette visite inattendue. « Voulez-vous du thé ? » ?»« Je ne refuse pas, s'il est chaud, » répondit Nicolas Vsevolodovitch. « Je suis tout trempé. »« Il est chaud, bouillant même, » reprit avec satisfaction Kirillov. « Asseyez-vous. Vous êtes sale, cela ne fait rien. Tout à l'heure, je mouillerai un torchon et je laverai le parquet. » Nicolas Vsevolodovitch s'assit et vida presque d'un seul trait la tasse de thé que lui avait versée l'ingénieur. « Encore ?» demanda celui-ci. « Merci. » Kirillov, qui jusqu'alors était resté debout, s'assit en face du visiteur. « Qu'est-ce qui vous amène ? » voulut-il savoir. « Je suis venu pour affaire. Tenez, lisez cette lettre que j'ai reçue de Gaganov. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de lui à Pétersbourg. » Kirillov prit la lettre, la lut, puis la posa sur la table et regarda son interlocuteur comme un homme qui attend une explication. « Ainsi que vous le savez, » commença Nicolas Vsevolodovitch, « j'ai rencontré il y a un mois à Pétersbourg ce Gaganov que je n'avais jamais vu de ma vie. 3 fois le hasard nous a mis dans le monde en présence l'un de l'autre. Sans entrer en rapport avec moi, sans m'adresser la parole, il a trouvé moyen d'être très insolent. Je vous l'ai dit alors. Mais voici ce que vous ignorez. À la veille de quitter Pétersbourg, d'où il est parti avant moi, il m'a tout à coup écrit une lettre, moins grossière que celle-ci, mais cependant des plus inconvenantes. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que dans cette lettre, il ne m'expliquait nullement à quel propos il m'écrivait ainsi. Je lui ai sur le champ répondu, par écrit aussi, et avec la plus grande franchise. Je lui déclarais que, sans doute, il m'en voulait de ma manière d'agir à l'égard de son père ici, au club, il y a 4 ans, et que, de mon côté, j'étais prêt à lui faire toutes les excuses possibles pour un acte non prémédité et commis dans un état de maladie. Je le priais de prendre mes excuses en considération. Il n'a pas répondu et est parti. Mais voici que maintenant, je le retrouve ici absolument enragé. On m'a rapporté certains propos tout à fait injurieux qu'il a publiquement tenus sur mon compte en les accompagnant d'accusations étonnantes. Enfin, aujourd'hui arrive cette lettre. Assurément, personne n'en a jamais reçu une pareille. Elle contient des grossièretés ignobles. Il se sert d'expressions comme « votre tête à claque ». Je suis venu dans l'espoir que vous ne refuserez pas d'être mon témoin. Vous avez dit que personne n'avait jamais reçu une pareille lettre, observa Kirillov. Cela est arrivé plus d'une fois. Quand on est furieux, que n'écrit-on pas? Vous connaissez la lettre de Pushkin à Ikeren? C'est bien, j'irai. Donnez-moi vos instructions. Nicolas Vsevolodovitch dit à l'ingénieur qu'il désirait terminer cette affaire dans les 24 heures. Pour commencer, il voulait absolument renouveler ses excuses, et même s'engager à écrire une seconde lettre dans ce sens. Mais, de son côté, Gaganov promettrait de ne plus lui adresser de lettre. Quant à celle qu'il avait écrite, elle serait considérée comme non avenue. « C'est beaucoup trop de concessions, et elles ne le satisferont pas, » répondit Kirillov. « Avant tout, j'étais venu vous demander si vous consentiriez à lui porter ces conditions. »« Je les lui porterai, c'est votre affaire, mais il ne les acceptera pas. »« Je le sais bien. Il veut se battre. Dites-moi comment vous entendez que le duel ait lieu. »« Je tiens beaucoup à ce que tout soit fini demain. Allez chez lui à 9 heures. Vous lui ferez part de mes propositions. Il les repoussera et vous abouchera avec son témoin. » Il sera alors 11 heures, je suppose. Vous conférerez avec ce témoin, et à 1 heure ou à 2 heures, tout le monde pourra se trouver sur le terrain. Je vous en prie, tâchez d'arranger les choses de la sorte. L'arme sera, naturellement, le pistolet. Les deux barrières seront séparées par un espace de 10 pas. Vous placerez chacun de nous à 10 pas de sa barrière. Et, au signal donné, nous marcherons l'un contre l'autre. Chacun devra nécessairement s'avancer jusqu'à sa barrière, mais il pourra tirer avant d'y être arrivé. Voilà tout, je pense. 10 pas entre les deux barrières, c'est une bien petite distance, objecta Kirillov. Allons, mettons-en 12, mais pas plus. Vous comprenez qu'il veut un duel sérieux. Vous savez charger un pistolet? Oui, j'ai des pistolets. Je donnerai ma parole que vous ne vous en êtes pas servi. Son témoin en fera autant pour ceux qu'il aura apportés, et le sort décidera avec quelle paire de pistolets on se battra. Très bien. Voulez-vous voir mes pistolets? Soit. La malle de Kirillov était dans un coin. Il ne l'avait pas encore défaite, mais il en retirait ses affaires au fur et à mesure qu'il en avait besoin. L'ingénieur y prit une boîte en bois de palmier, capitonné de velours à l'intérieur, et contenant une paire de pistolets superbes. Tout est là, poudre, balles, cartouches. J'ai aussi un revolver, attendez. Il fouilla de nouveau dans sa malle, et en sortit une autre boîte qui refermait un revolver américain à 6 coups. Vous n'avez pas mal d'armes, et elles sont d'une grande valeur. D'une grande valeur. Pauvre. Presque indigent, Kirillov, qui du reste ne s'apercevait jamais de sa misère, était évidemment bien aise d'exhiber aux yeux du visiteur ses armes de luxe, dont l'achat avait sans doute entraîné pour lui bien des sacrifices. « Vous êtes toujours dans les mêmes idées ?» demanda Stavrogin après une minute de silence. Nonobstant le vague de cette question, au ton dont elle était faite, l'ingénieur devina immédiatement à quoi elle se rapportait. « Oui, » répondit-il laconiquement, tandis qu'il serrait les armes étalées sur la table. « Quand donc ?» reprit en termes plus vagues encore Nicolas Vsevolodovitch après un nouveau silence. Pendant ce temps, Kirillov avait remis les deux boîtes dans la malle et s'était rassis à son ancienne place. « Cela ne dépend pas de moi, comme vous savez. Quand on me le dira, » marmotta-t-il entre ses dents. Cette question semblait le contrarier un peu, mais en même temps, il paraissait disposé à répondre à toutes les autres. Ses yeux, noirs et ternes, restaient figés sur le visage de Stavrogin. Leur regard tranquille était bon et affable. Nicolas Vsevolodovitch se tut pendant 3 minutes. « Sans doute, je comprends qu'on se brûle la cervelle, » commença-t-il, ensuite en fronçant légèrement les sourcils. « Parfois, moi-même, j'ai songé à cela, et il m'est venu une idée nouvelle. Si l'on commet un crime, ou pire encore, un acte honteux, déshonorant et ridicule, un acte destiné à vous couvrir de mépris pendant 1000 ans. On peut se dire, un coup de pistolet dans la tempe et plus rien de tout cela n'existera. Qu'importe alors les jugements des hommes et leur mépris durant 1000 ans, n'est-il pas vrai? Vous appelez cela une idée nouvelle? Demanda Kirillov songeur. Je ne l'appelle pas ainsi, mais une fois, en y pensant, je l'ai sentie toute nouvelle. « Vous l'avez senti, » reprit l'ingénieur. « C'est bien dire. Il y a beaucoup d'idées qu'on a toujours eues et qui, à un moment donné, paraissent tout d'un coup nouvelles. C'est vrai. À présent, je vois bien des choses comme pour la première fois. » Sans l'écouter, Stavrogin poursuivit le développement de sa pensée. « Mettons que vous ayez vécu dans la Lune. C'est là, je suppose, que vous avez commis toutes ces vilainies ridicules. Ici, vous savez, à n'en pas douter, que là, on se moquera de vous pendant 1000 ans, que pendant toute l'éternité, toute la lune crachera sur votre mémoire. Mais maintenant, vous êtes ici, et c'est de la terre que vous regardez la lune. Peu vous importe, n'est-ce pas, les sottises que vous avez faites dans cet astre, et il vous est parfaitement égal d'être, pendant 1 millier d'années, en but au mépris de ses habitants. « Je ne sais pas, » répondit Kirillov, « je n'ai jamais été dans la lune. » Ajouta-t-il sans ironie, simplement pour constater un fait. « À qui est cet enfant que j'ai vu ici tout à l'heure ?»« La belle-mère de la vieille est arrivée, c'est-à-dire, non, sa belle-fille. Cela ne fait rien, il y a 3 jours. Elle est malade avec un enfant. » La nuit, il crie beaucoup, il a mal au ventre. La mère dort et la vieille apporte l'enfant ici. Je l'amuse avec une balle. Cette balle vient de Hambourg. Je l'y ai achetée pour la lancer et la rattraper. Cela fortifie le dos. C'est une petite fille. Vous aimez les enfants? Je les aime, dit Kirillov d'un ton assez indifférent, du reste. Alors, vous aimez aussi la vie? « Oui, j'aime aussi la vie. Cela vous étonne ?»« Mais vous êtes décidé à vous brûler la cervelle ?»« Eh bien, pourquoi mêler deux choses qui sont distinctes l'une de l'autre? La vie existe et la mort n'existe pas. »« Vous croyez maintenant à la vie éternelle dans l'autre monde ?»« Non, mais à la vie éternelle dans celui-ci. » Il y a des moments, vous arrivez à des moments où le temps s'arrête tout d'un coup pour faire place à l'éternité. Vous espérez arriver à un tel moment? Oui. Je doute que dans notre temps ce soit possible. Ces mots furent dits par Nicolas Vsevolodovitch sans aucune intention ironique. Il les prononça lentement et d'un air pensif. Dans l'Apocalypse, « l'ange jure qu'il n'y aura plus de temps, » observa-t-il ensuite. « Je le sais, c'est très vrai. Quand tout homme aura atteint le bonheur, il n'y aura plus de temps, parce qu'il ne sera plus nécessaire. C'est une pensée très juste. Où donc le mettra-t-on ? On ne le mettra nulle part, le temps n'est pas un objet, mais une idée. Cette idée s'effacera de l'esprit. Ce sont de vieilles rengaines philosophiques, toujours les mêmes depuis le commencement des siècles, grommela Stavrogin avec une pitié méprisante. Oui, les mêmes depuis le commencement des siècles, et il n'y en aura jamais d'autres, reprit l'ingénieur, dont les yeux s'illuminèrent comme si l'affirmation de cette idée eût été pour lui une sorte de victoire. Vous paraissez fort heureux, Kirillov.
Je suis fort heureux, en effet, reconnut celui-ci du même ton dont il eût fait la réponse la plus ordinaire.
Mais il n'y a pas encore si longtemps, vous étiez de mauvaise humeur. Vous vous êtes fâché contre Lipoutine ?
À présent, je ne gronde plus. Alors, je ne savais pas encore que j'étais heureux.
Avez-vous quelquefois vu une feuille d'arbre ?
Oui.
Dernièrement, j'en ai vu une. Elle était jaune, mais conservait encore en quelques endroits sa couleur verte. Les bords étaient pourris. Le vert l'emportait. Quand j'avais 10 ans, il m'arrivait en hiver de fermer les yeux exprès et de me représenter une feuille verte, aux veines nettement dessinées, un soleil brillant. J'ouvrais les yeux et je croyais rêver tant c'était beau. Je les refermais encore.
Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une figure ?
Non, pourquoi ? Je ne fais point d'allégorie. Je parle seulement de la feuille. La feuille est belle, tout est bien.
Tout ?
Oui, l'homme est malheureux parce qu'il ne connaît pas son bonheur, uniquement pour cela. C'est tout, tout. Celui qui saura qu'il est heureux le deviendra tout de suite, à l'instant même. Cette belle-mère mourra, et la petite fille restera. Tout est bien. J'ai découvert cela brusquement.
Et si l'on meurt de faim? Et si l'on viole une petite fille? C'est bien aussi?
Oui, tout est bien pour quiconque sait que tout est tel. Si les hommes savaient qu'ils sont heureux, ils le seraient. Mais tant qu'ils ne le sauront pas, ils seront malheureux. Voilà toute l'idée, il n'y en a pas d'autre.
Quand donc avez-vous eu connaissance de votre bonheur ?
Mardi dernier, ou plutôt mercredi, dans la nuit du mardi au mercredi.
À quelle occasion ?
Je ne me le rappelle pas, c'est arrivé par hasard. Je me promenais dans ma chambre. Cela ne fait rien. J'ai arrêté la pendule, il était 2h37.
Une leçon emblématique d'exprimer que le temps doit s'arrêter.
Kirillov ne releva pas cette observation.
Ils ne sont pas bons, reprit-il tout à coup, parce qu'ils ne savent pas qu'ils le sont. Quand ils l'auront appris, ils ne violeront plus de petites filles. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont bons, et instantanément ils le deviendront tous, jusqu'au dernier.
Ainsi, vous qui savez cela, vous êtes bon.
Oui.
Là-dessus, du reste, je suis de votre avis, murmura en fronçant les sourcils Stavrogin. Celui qui apprendra aux hommes qu'ils sont bons, celui-là finira le monde.
Celui qui le leur a pris, ils l'ont crucifié.
Il viendra, et son nom sera l'homme-dieu.
Le dieu-homme.
L'homme-dieu, il y a une différence.
C'est vous qui avez allumé la lampe devant l'icône ?
Oui.
Vous êtes devenu croyant ?
La vieille aime à allumer cette lampe, mais aujourd'hui elle n'a pas eu le temps, murmura Kirillov.
Mais vous-même, vous ne priez pas encore ?
Je prie tout. Vous voyez cette araignée qui se promène sur le mur ? Je la regarde et lui suis reconnaissant de se promener ainsi.
Ses yeux brillèrent de nouveau. Ils étaient obstinément fixés sur le visage de Stavrogin. Ce dernier semblait considérer son interlocuteur avec une sorte de dégoût, mais son regard n'avait aucune expression moqueuse. Il se leva et prit son chapeau.
« Je parie, dit-il, que quand je reviendrai, vous croirez en Dieu.
Pourquoi ?
demanda l'ingénieur en se levant à demi. « Si vous saviez que vous croyez en Dieu, vous y croiriez. Mais comme vous ne savez pas encore que vous croyez en Dieu, vous n'y croyez pas. » répondit en souriant Nicolas Vsevolodovitch.
« Ce n'est pas cela, » reprit Kirillov pensif. « Vous avez parodié mon idée, c'est une plaisanterie d'homme du monde. Rappelez-vous que vous avez marqué dans ma vie, Stavrogin. »
« Adieu, Kirillov. »
« Venez la nuit. Quand ? »
« Mais n'avez-vous pas oublié notre affaire de demain ?»«
Ah, je l'avais oublié. Soyez tranquille, je serai levé à temps. À 9 heures, je serai là. Je sais m'éveiller quand je veux. En me couchant, je dis « à 7 heures » et je m'éveille à 7 heures. « À 10 heures » et je m'éveille à 10 heures.
« Vous possédez des qualités remarquables !» dit Nicolas Vsevolodovitch en examinant le visage pâle de Kirillov.
« Je vais aller vous ouvrir la porte. »«
Ne vous dérangez pas, Chatov me l'ouvrira. »«
Ah, Chatov, bien, adieu. »
Le perron de la maison vide où logeait Chatov était ouvert, mais quand Stavrogin en eut monté les degrés, un vestibule complètement sombre s'offrit à lui, et il dut chercher à tâtons l'escalier conduisant à la mezzanine. Soudain, en haut, s'ouvrit une porte, et il vit briller de la lumière. Chatov n'alla pas lui-même au-devant du visiteur, il se contenta d'ouvrir sa porte. Lorsque Nicolas Vsevolodovitch se trouva sur le seuil, il aperçut dans un coin le maître du logis qui l'attendait debout près d'une table.
« Je viens chez vous pour affaires, voulez-vous me recevoir ?» demanda Stavrogin avant de pénétrer dans la chambre.
« Entrez et asseyez-vous, » répondit Chatov.
« Fermez la porte. »«
Non, laissez, je ferai cela moi-même. » Il ferma la porte à clé, revint près de la table et s'assit en face de Nicolas Vsevolodovitch. Durant cette semaine, il avait maigri, et en ce moment, il semblait être dans un état fiévreux.
« Vous m'avez beaucoup tourmenté, » dit-il à voix basse et sans lever les yeux. « Je me demandais toujours pourquoi vous ne veniez pas. »
« Vous étiez donc bien sûr que je viendrais ?»«
Oui, attendez, j'ai rêvé. » Je rêve peut-être encore maintenant. Attendez. »
Il se leva à demi et, sur le plus haut des 3 rayons qui lui servaient de bibliothèque, il prit quelque chose. C'était un revolver.
« Une nuit, j'ai rêvé que vous viendriez me tuer. Et le lendemain matin, j'ai dépensé tout ce qui me restait d'argent pour acheter un revolver à ce coquin de Liamchine. Je voulais vendre chèrement ma vie. Ensuite, j'ai recouvré le bon sens. Je n'ai ni poudre ni balle. Depuis ce temps, l'arme est toujours restée sur ce rayon. Attendez. »
En parlant ainsi, il se disposait à ouvrir le vasistas. Nicolas Vsevolodovitch l'en empêcha.
« Ne le jetez pas. À quoi bon? Il coûte de l'argent. Et demain, les gens diront qu'on trouve des revolvers traînant sous la fenêtre de Chatov. Remettez-le en place. » « Là, c'est bien, asseyez-vous. Dites-moi, pourquoi me racontez-vous, comme un pénitent à confesse, que vous m'avez supposé l'intention de venir vous tuer ? En ce moment même, je ne viens pas me réconcilier avec vous, mais vous parlez de choses urgentes. D'abord, j'ai une explication à vous demander. Ce n'est pas à cause de ma liaison avec votre femme que vous m'avez frappé.
Vous savez bien que ce n'est pas cela. » répondit Chatov, les yeux toujours baissés.
Ni parce que vous avez cru à la stupide histoire concernant Daria Pavlovna.
Non, non, assurément non, c'est une stupidité. Dès le commencement, ma sœur me l'a dit, répliqua Chatov avec impatience et même en frappant légèrement du pied.
Alors j'avais deviné, et vous avez deviné aussi,
poursuivit d'un ton calme Stavrogin. « Vous ne vous êtes pas trompé. Marie Timofeyevna Lebiatkin est ma femme légitime. Je l'ai épousée à Pétersbourg il y a 4 ans et demi. C'est pour cela que vous m'avez donné un soufflet, n'est-ce pas ?»
Chatov, stupéfait, écoutait en silence. « Je l'avais deviné, mais je ne voulais pas le croire. »
balbutia-t-il enfin en regardant Stavrogin d'un air étrange.
« Et pourtant vous m'avez frappé !»
Chatov rougit et bégaya quelques mots presque incohérents.
« C'était pour votre chute, pour votre mensonge. En m'avançant vers vous, je n'avais pas l'intention de vous punir. Au moment où je me suis approché, je ne savais pas que je frapperais. J'ai fait cela parce que vous avez compté pour beaucoup dans ma vie.
Je comprends. Épargnez les paroles. Je regrette que vous soyez si agité. L'affaire qui m'amène est des plus urgentes.
Je vous ai attendu trop longtemps, reprit Chatov qui tremblait de tout son corps, et il se leva à demi. Dites votre affaire, je parlerai aussi, après.
Il se rassit. Cette affaire est d'un autre genre, commença Nicolas Vsevolodovitch en considérant son interlocuteur avec curiosité. Certaines circonstances m'ont forcé à choisir ce jour et cette heure pour me rendre chez vous. Je viens vous avertir que peut-être on vous tuera.
Chatov le regarda d'un air intrigué. Je sais qu'un danger peut me menacer, dit-il posément. Mais vous, comment pouvez-vous savoir cela?
Parce que, comme vous, je leur appartiens. Comme vous, je fais partie de leur société.
Vous êtes membre de la société?
Je vois à vos yeux que vous attendiez tout de moi, excepté cela,
fit avec un léger sourire Nicolas Vsevolodovitch. Mais permettez, ainsi vous saviez déjà qu'on doit tenter à vos jours?
Je me refusais à le croire, et maintenant encore, malgré vos paroles, je ne le crois pas.
Pourtant, qui donc, avec ces imbéciles-là, peut répondre de quelque chose ?
Vociféra-t-il furieux en frappant du poing sur la table.
Je ne les crains pas, j'ai rompu avec eux. Cet homme est passé 4 fois chez moi, et il m'a dit que je le pouvais, mais...
ajouta-t-il en fixant les yeux sur Stavrogin.
Que savez-vous au juste ?
Soyez tranquille, je ne vous tromperai pas, reprit assez froidement Nicolas Vsevolodovitch, comme un homme qui accomplit seulement un devoir. Vous me demandez ce que je sais. Je sais que vous êtes entré dans cette société à l'étranger, il y a 4 ans, avant qu'elle eût été reconstituée sur de nouvelles bases. Vous étiez alors à la veille de partir pour les États-Unis, et nous venions, je crois, d'avoir ensemble notre dernière conversation, celle dont il est si longuement question dans la lettre que vous m'avez écrite d'Amérique. À propos, pardonnez-moi de ne vous avoir pas répondu et de m'être borné
à un envoi d'argent. Attendez,
interrompit Chatov, qui prit vivement dans le tiroir de sa table un billet de banque couleur d'arc-en-ciel.
Tenez, voilà les 100 roubles que vous m'avez envoyés. Sans vous, je serais mort là-bas. Je ne vous aurais pas remboursé de sitôt si votre mère ne m'était venue en aide. C'est elle qui m'a donné ces 100 roubles, il y a 9 mois, pour soulager ma misère au moment où je relevais de maladie. Mais continuez, je vous prie.
Il étouffait. En Amérique, vos idées se sont modifiées, et revenu en Suisse, vous avez voulu vous retirer de la société. Ils ne vous ont pas répondu, mais vous ont chargé de recevoir ici, en Russie, des mains de quelqu'un, un matériel typographique, et de le garder jusqu'au jour où un tiers viendrait chez vous de leur part pour en prendre livraison. Vous avez consenti, espérant ou ayant mis pour condition que ce serait leur dernière exigence, et qu'à l'avenir ils vous laisseraient tranquille. Tout cela, vrai ou faux, ce n'est pas d'eux que je le tiens. Le hasard seul me l'a appris. Mais voici une chose, que je crois vous ignorez encore. Ces messieurs n'entendent nullement se séparer de vous.
C'est absurde, cria Chatov. J'ai loyalement déclaré que j'étais en désaccord avec eux sur tous les points. C'est mon droit, le droit de la conscience et de la pensée. Je ne souffrirai pas cela. Il n'y a pas de force qui puisse.
Vous savez, ne criez pas, observa très sérieusement Nicolas Vsevolodovitch. Ce Verkhovansky est un gaillard capable de nous entendre en ce moment. Qui sait s'il n'a pas dans votre vestibule son oreille ou celle d'un de ses affidés. Il se peut que cet ivrogne de Lebiadkine ait été lui-même chargé de vous surveiller, comme peut-être vous l'aviez sous votre surveillance, n'est-ce pas? Dites-moi plutôt ceci. Est-ce que Verkhovansky s'est rendu à vos raisons?
Il s'y est rendu. Il a reconnu que je pouvais me retirer, que j'en avais le droit.
Eh bien, alors il vous trompe. Je sais que Kirillov lui-même, qui est à peine des leurs, a fourni sur vous des renseignements. Ils ont beaucoup d'agents, et parmi ceux-ci, plusieurs les servent sans le savoir. On a toujours eu l'œil sur vous. Verkhovansky, notamment, est venu ici pour régler votre affaire, et il a de plein pouvoir pour cela. On veut, à la première occasion favorable, se débarrasser de vous, parce que vous savez trop de choses et que vous pouvez faire des révélations. Je vous répète que c'est certain. Permettez-moi de vous le dire. Ils sont absolument convaincus que vous êtes un espion et que, si vous ne les avez pas encore dénoncés, vous comptez le faire. Est-ce vrai ?
À cette question qui lui était adressée du ton le plus ordinaire, Chatov fit une grimace.
Quand même, je serais un espion. À qui les dénoncerais-je ?
Répliqua-t-il avec colère, sans répondre directement.
Non, laissez-moi, que le diable m'emporte !
S'écria-t-il, revenant soudain à sa première idée, qui, évidemment, le préoccupait 100 fois plus que la nouvelle de son propre danger.
Vous, Stavrogin, comment avez-vous pu vous fourvoyer dans cette sotte et effrontée compagnie de laquais ? Vous êtes entré dans leur société? Est-ce là un exploit digne de Nicolas Stavrogin?
Il prononça ces mots avec une sorte de désespoir, en frappant ses mains l'une contre l'autre.
Rien, semblait-il, ne pouvait lui causer un plus cruel chagrin qu'une révélation pareille.
Pardon, fit Stavrogin étonné. Mais vous avez l'air de me considérer comme un soleil auprès duquel vous ne seriez, vous, qu'un petit scarabée. J'ai déjà remarqué cela dans la lettre que vous m'avez écrite d'Amérique.
Vous savez... Ah, ne parlons plus de moi, plus du tout, reprit vivement Chatov.
Si vous pouvez me donner quelque explication en ce qui vous concerne, expliquez-vous. Répondez à ma question,
ajouta-t-il avec véhémence.
« Volontiers. Vous me demandez comment j'ai pu me fourvoyer dans un pareil milieu ?
Après la communication que je vous ai faite, je me crois tenu de vous répondre sur ce point avec une certaine franchise. Voyez-vous, dans le sens strict du mot, je n'appartiens point à cette société, et je suis beaucoup plus que vous en droit de la quitter, attendu que je n'y suis pas entré. J'ai même eu soin de leur déclarer dès le début que je n'étais pas leur société, et que si je leur rendais par hasard quelque service, c'était seulement pour tuer le temps. J'ai pris une certaine part à la réorganisation de la société sur un plan nouveau, voilà tout. Mais maintenant, ils se sont ravisés et ont décidé à part eux qu'il était dangereux de me rendre ma liberté. Bref. « Je suis aussi condamné, paraît-il. »«
Oh, les condamnations à mort ne leur coûtent rien à prononcer. Ils sont là, 3 hommes et demi, qui ont vite fait de libeller des sentences capitales sur des papiers revêtus de cachets. Et vous croyez qu'ils sont capables de les mettre à exécution ?»«
Il y a du vrai et du faux dans votre manière de voir, » répondit Nicolas Vsevolodovitch. sans se départir de son ton flegmatique et indifférent. Certes, la fantaisie joue ici un grand rôle, comme dans tous les cas semblables. Le groupe exagère son importance. Si vous voulez, je dirais même qu'à mon avis, il tient tout entier dans la personne de Pierre Verkhovansky. Ce dernier est vraiment trop bon de ne se considérer que comme l'agent de sa société. Du reste, l'idée fondamentale n'est pas plus bête que les autres, du même genre. Ils sont en relation avec l'international, ils ont réussi à recruter des adeptes en Russie, et ils ont même trouvé une manière assez originale. Mais bien entendu, c'est seulement théorique. Quant à ce qu'ils veulent faire ici, le mouvement de notre organisation russe est une chose si obscure et presque toujours si inattendue que, chez nous, on peut en effet tout entreprendre. Remarquez que Verkhovansky est un homme opiniâtre. Cette punaise, cet ignorant, ce sot qui ne comprend rien à la Russie, protesta avec irritation Chatov. Vous ne le connaissez pas bien. C'est vrai que tous, en général, ils ne comprennent guère la Russie. Mais sous ce rapport, vous et moi, nous sommes à peine un peu plus intelligents qu'eux. En outre, Verkhovansky est un enthousiaste.
Verkhovansky, un enthousiaste?
Oh oui, il y a un point où il cesse d'être un bouffon pour devenir un demi-fou. Je vous prie de vous rappeler une de vos propres paroles. Savez-vous comment un seul homme peut être fort? Ne riez pas, s'il vous plaît. Il est très capable de presser la détente d'un pistolet. Ils sont persuadés que je suis aussi un mouchard. Comme ils ne savent pas mener leur affaire, ils ont une tendance à voir partout des espions.
Mais vous n'avez pas peur?
Non, je n'ai pas fort peur. Mais votre cas est bien différent du mien. Je vous ai prévenu pour que vous vous teniez sur vos gardes. Selon moi, vous auriez tort de mépriser le danger sous prétexte que ce sont des imbéciles. Il ne s'agit pas ici de leur intelligence. Et du reste, leur main s'est déjà levée sur d'autres gens que vous et moi. Mais il est 11h15, ajouta-t-il en regardant sa montre et en se levant. Je désirerais vous adresser une question qui n'a aucunement trait à ce sujet.
Pour l'amour de Dieu !
S'écria Chatov, et il quitta précipitamment sa place.
C'est-à-dire ?
Demanda le visiteur en interrogeant des yeux le maître du logis.
Faites votre question, pour l'amour de Dieu !
Répéta Chatov en proie à une agitation indicible.
Mais vous me permettrez de vous en faire une à mon tour. Je vous en supplie. Je ne puis. Faites votre question.
Après un moment de silence, Stavrogin commença. J'ai entendu dire que vous aviez ici une certaine influence sur Marie Timofeyevna, qu'elle vous voyait et vous écoutait volontiers. Est-ce vrai?
Oui, elle m'écoutait,
répondit Chatov un peu troublé. Je compte d'ici à quelques jours rendre public mon mariage avec elle.
Est-ce possible ?
Murmura Chatov, la consternation peinte sur le visage.
Dans quel sens l'entendez-vous ?
Cette affaire ne souffrira aucune difficulté. Les témoins du mariage sont ici. Tout cela s'est fait à Pétersbourg dans les formes les plus régulières et les plus légales. Si la chose n'a pas été connue jusqu'à présent, c'est uniquement parce que les deux seuls témoins du mariage, Kirillov et Pierre Verkhovansky, et enfin Libiatkin lui-même, dont j'ai maintenant la satisfaction d'être le beau-frère, s'étaient engagés sur l'honneur à garder le silence.
Je ne parlais pas de cela. Vous vous exprimez avec un tel calme. Mais continuez. Écoutez. Est-ce qu'on ne vous a pas forcé à contracter ce mariage?
Non, personne ne m'a forcé, répondit Nicolas Vsevolodovitch, que la supposition de Chatov fit sourire.
Mais elle prétend qu'elle a eu un enfant,
reprit avec vivacité Chatov.
Elle prétend qu'elle a eu un enfant?
Bah, je ne le savais pas.
C'est vous qui me la prenez. Elle n'a pas eu d'enfant et n'a pas pu en avoir. Marie Timofeyevna est vierge.
Ah, c'est aussi ce que je pensais. Écoutez.
Qu'est-ce que vous avez, Chatov ?
Chatov couvrit son visage de ses mains et se détourna. Mais tout à coup, il saisit avec force Stavrogine par l'épaule.
« Savez-vous ? Savez-vous, du moins » cria-t-il. « Pourquoi vous avez fait tout cela ? Et pourquoi vous vous infligez maintenant une telle punition ?»«
Laissons cela, nous en parlerons plus tard. Attendez un peu. Parlons de l'essentiel, de la question principale. Je vous ai attendu pendant 2 ans. »
« Oui ?»«
Je vous ai attendu trop longtemps. Je pensais sans cesse à vous. Vous êtes le seul homme qui puisse... » Et déjà, je vous ai écrit d'Amérique à ce sujet.
Je me souviens très bien de votre longue lettre.
Trop longue pour être lue entièrement, j'en conviens. 6 feuilles de papier de poste.
Taisez-vous, taisez-vous, dites-moi. Pouvez-vous m'accorder encore 10 minutes?
Mais maintenant, tout de suite, je vous ai attendu trop longtemps.
Soit, je vous accorderai 1/2 heure, mais pas plus, si cela ne vous gêne pas.
Et vous prendrez aussi un autre ton,
répliqua avec irritation Chatov.
Écoutez, j'exige, quand je devrais prier... Comprenez-vous ce que c'est qu'exiger, alors qu'on devrait recourir à la prière?
Je comprends que, de la sorte, vous vous mettez au-dessus de tous les usages, en vue de buts plus élevés,
répondit avec une nuance de raillerie Nicolas Vsevolodovitch.
Je vois aussi avec peine que vous avez la fièvre.
« Je vous prie de me respecter !» cria Chatov. « J'exige votre respect. Je le réclame. Non pour ma personnalité, je m'en moque, mais pour autre chose, durant les quelques instants que durera notre entretien. Nous sommes 2 êtres qui se sont rencontrés dans l'infini, qui se voient pour la dernière fois. Laissez ce ton et prenez celui d'un homme. Parlez au moins 1 fois dans votre vie un langage humain. »
« Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous que je vous demande cela. Comprenez-vous que vous devez me pardonner ce coup de poing qui vous a fourni l'occasion de connaître votre immense force ? Voilà encore sur vos lèvres ce dédaigneux sourire de l'homme du monde. Oh, quand me comprendrez-vous ? Dépouillez-vous donc le baritch. Comprenez donc que j'exige cela. Je l'exige, sinon je me tais. Je ne parlerai pour rien au monde. »
Son exaltation touchait aux limites du délire. Nicolas Vsevolodovitch fronça le sourcil et devint plus sérieux.
« Si j'ai consenti à rester encore 1/2 heure chez vous, alors que le temps est si précieux pour moi, dit-il gravement, croyez que j'ai l'intention de vous écouter, à tout le moins avec intérêt, et je suis sûr d'entendre sortir de votre bouche beaucoup de choses nouvelles. »
Il s'assit sur une chaise.
« Asseyez-vous !»
cria Chatov, qui lui-même prit brusquement un siège.
« Permettez-moi pourtant de vous rappeler, reprit Stavrogine, que j'avais commencé à vous parler de Marie Timofeyevna. Je voulais vous adresser à son sujet une demande qui, pour elle du moins, est fort importante.
« Eh bien ?»
fit Chatov avec une mauvaise humeur subite. Il avait l'air d'un homme qu'on a interrompu tout à coup à l'endroit le plus intéressant de son discours, et qui, tout en tenant ses yeux fixés sur vous, n'a pas encore eu le temps de comprendre votre question.
« Vous ne m'avez pas laissé achever, » répondit en souriant Nicolas Vsevolodovitch.
« Eh, cela ne signifie rien, plus tard !»
répliqua Chatov avec un geste méprisant. Et il aborda aussitôt le thème qui, pour lui, était le principal.
VII. Le corps penché en avant, l'index de la main droite levé en l'air par un mouvement évidemment machinal, Chatov, dont les yeux étincelaient, commença d'une voix presque menaçante. « Savez-vous quel est à présent dans l'univers entier le seul peuple déifère, appelé à renouveler le monde et à le sauver par le nom d'un Dieu nouveau, le seul qui possède les clés de la vie et de la parole nouvelle? Savez-vous quel est ce peuple et comment il se nomme?
D'après la manière dont vous posez la question, je dois forcément conclure, et je crois, le plus vite possible, que c'est le peuple russe.
Et vous riez, oh, quelle engeance! Vociféra Chatov.
Calmez-vous, je vous prie. Au contraire, j'attendais précisément quelque chose dans ce genre.
Vous attendiez quelque chose dans ce genre? Mais vous-même ne connaissez-vous pas ces paroles?
Je les connais très bien. Je ne vois que trop où vous voulez en venir. Toute votre phrase, y compris le mot de peuple déifère, n'est que la conclusion de l'entretien que nous avons eu ensemble à l'étranger, il y a plus de 2 ans, un peu avant votre départ pour l'Amérique. Autant du moins que je puis m'en souvenir à présent.
Cette phrase est tout entière de vous, et non de moi. Ce que vous appelez notre entretien n'en était pas un. Il y avait en face l'un de l'autre un maître prononçant de graves paroles et un disciple ressuscité d'entre les morts. J'étais ce disciple, vous étiez le maître.
Mais si je me rappelle bien, vous êtes entré dans cette société précisément après avoir entendu mes paroles, et c'est ensuite seulement que vous êtes allé en Amérique.
Oui, et je vous ai écrit d'Amérique à ce propos, je vous ai tout raconté.
Oui, je n'ai pas pu me détacher immédiatement des convictions qui s'étaient enracinées en moi depuis mon enfance. Il est difficile de changer de Dieu. Je ne vous ai pas cru alors, parce que je n'ai pas voulu vous croire, et je me suis enfoncé une dernière fois dans ce cloaque. Mais la semence est restée, et elle a germé. Sérieusement, répondez-moi la vérité. Vous n'avez pas lu jusqu'au bout la lettre que je vous ai adressée d'Amérique ? Peut-être n'en avez-vous pas lu une ligne.
J'en ai lu 3 pages, les 2 premières et la dernière. De plus, j'ai jeté un rapide coup d'œil sur le milieu. Du reste, je me proposais toujours...
Eh, qu'importe, laissez-la ma lettre, qu'elle aille au diable,
répliqua Chatov en agitant la main.
Si vous rétractez aujourd'hui ce que vous disiez alors du peuple, comment avez-vous pu tenir alors ce langage? Voilà ce qui m'oppresse maintenant.
Je ne vous ai pas mystifié à cette époque-là. En essayant de vous persuader, peut-être cherchais-je plus encore à me convaincre moi-même, répondit évasivement Stavrogin.
Vous ne m'avez pas mystifié. En Amérique, j'ai couché durant 3 mois sur la paille, côte à côte avec un malheureux. Et j'ai appris de lui que, dans le temps même où vous implantiez les idées de Dieu et de patrie dans mon cœur, vous empoisonniez l'âme de cet infortuné, de ce maniaque, de ce Kirillov. Vous avez fortifié en lui l'erreur et le mensonge. Vous avez exalté son intelligence jusqu'au délire. Regardez-le maintenant, c'est votre œuvre. Du reste, vous l'avez vu.
D'abord, je vous ferai remarquer que Kirillov lui-même vient de me dire tout à l'heure qu'il est heureux et qu'il est bon. Vous ne vous êtes guère trompé en supposant que tout cela a eu lieu dans un seul et même temps. Mais que concluez-vous de cette simultanéité? Je le répète, je ne me suis joué ni de vous ni de lui.
Vous êtes athée maintenant?
Oui.
Et alors?
C'était exactement la même chose.
Ce n'est pas pour moi que je vous ai demandé du respect au début de cet entretien. Avec votre intelligence, vous auriez pu le comprendre,
grommela Chatov indigné.
Je ne me suis pas levé dès votre premier mot. Je n'ai pas coupé court à la conversation. Je ne me suis pas retiré. Au contraire, je reste là. Je réponds avec douceur à vos questions et à vos cris. Par conséquent, je ne vous ai pas encore manqué de respect.
Chatov fit avec le bras un geste violent.
Vous rappelez-vous vos expressions? Un athée ne peut pas être russe. Un athée cesse à l'instant même d'être russe. Vous en souvenez-vous?
J'ai dit cela? Questionna Nicolas Vsevolodovitch.
Vous le demandez? Vous l'avez oublié? Pourtant, vous signaliez là, avec une extrême justesse, un des traits les plus caractéristiques de l'esprit russe. Il est impossible que vous ayez oublié cela. Je vous citerai d'autres de vos paroles. Vous disiez aussi dans ce temps-là, « Celui qui n'est pas orthodoxe ne peut pas être russe. » Je suppose que c'est une idée slavophile. Non, les slavophiles actuels la répudient. Ils sont devenus des gens éclairés. Mais vous alliez plus loin encore. Vous croyez que le catholicisme romain n'était plus le christianisme. Selon vous, Rome prêchait un Christ qui avait cédé à la troisième tentation du diable. En déclarant au monde entier que le Christ ne peut se passer d'un royaume terrestre, le catholicisme, disiez-vous, a par cela même proclamé l'antéchrist et perdu tout l'Occident. Si la France souffre, ajoutiez-vous, la faute en est uniquement au catholicisme, car elle a repoussé l'infect dieu de Rome, sans en chercher un nouveau. Voilà ce que vous avez pu dire alors. Je me rappelle vos conversations. Si je croyais, sans doute je répéterais encore cela aujourd'hui. Je ne mentais pas quand je tenais le langage d'un croyant. Reprit très sérieusement Nicolas Vsevolodovitch. Mais je vous assure qu'il m'est fort désagréable de m'entendre rappeler mes idées d'autrefois. Ne pourriez-vous pas cesser? Si vous croyez, vociféra Chatov sans s'inquiéter aucunement du désir exprimé par son interlocuteur. Mais ne m'avez-vous pas dit que si l'on vous prouvait mathématiquement que la vérité est en dehors du Christ, vous consentiriez plutôt à rester avec le Christ qu'avec la vérité? M'avez-vous dit cela? L'avez-vous dit? Permettez-moi à la fin de vous demander, répliqua Stavrogin en élevant la voix, à quoi tend tout cet interrogatoire passionné et malveillant? Cet interrogatoire n'est qu'un accident fugitif qui passera sans laisser aucune trace dans votre souvenir. Vous insistez toujours sur cette idée que nous sommes en dehors de l'espace et du temps. Taisez-vous ! Cria soudain Chatov. Je suis gauche et bête, mais que mon nom sombre dans le ridicule. Me permettez-vous de reproduire devant vous ce qui était alors votre principale théorie ? Oh, rien que 10 lignes, la conclusion seulement. Soit, si c'est seulement la conclusion. Stavrogin voulut regarder l'heure à sa montre, mais il se retint. De nouveau, Chatov se pencha en avant et leva le doigt en l'air. « Pas une nation » commença-t-il, comme s'il eût lu dans un livre, et en même temps il continuait à regarder son interlocuteur d'un air menaçant. « Pas une nation ne s'est encore organisée sur les principes de la science et de la raison. Le fait ne s'est jamais produit, sauf momentanément dans une minute de stupidité. Le socialisme, au fond, doit être l'athéisme, car dès le premier article de son programme, il s'annonce comme faisant abstraction de la divinité, et il n'entend reposer que sur des bases scientifiques et rationnelles. De tout temps, la science et la raison n'ont joué qu'un rôle secondaire dans la vie des peuples, et il en sera ainsi jusqu'à la fin des siècles. Les nations se forment et se meuvent en vertu d'une force maîtresse dont l'origine est inconnue et inexplicable. Cette force est le désir insatiable d'arriver au terme, et en même temps elle nie le terme. C'est chez un peuple l'affirmation constante, infatigable de son existence et la négation de la mort. L'esprit de vie, comme dit l'Écriture, les courants d'eau vive dont l'Apocalypse prophétise le dessèchement, le principe esthétique ou moral des philosophes, la recherche de Dieu, pour employer le mot le plus simple. Chez chaque peuple, à chaque période de son existence, le but de tout le mouvement national est seulement la recherche de Dieu, d'un Dieu à lui, à qui il croit comme au seul véritable. Dieu est la personnalité synthétique de tout un peuple, considéré depuis ses origines jusqu'à sa fin. On n'a pas encore vu tous les peuples, où beaucoup d'entre eux se réunirent dans l'adoration commune d'un même Dieu.
toujours chacun a eu sa divinité propre. Quand les cultes commencent à se généraliser, la destruction des nationalités est proche. Quand les dieux perdent leur caractère indigène, ils meurent, et avec eux, les peuples. Plus une nation est forte, plus son dieu est distinct des autres. Il ne s'est encore jamais rencontré de peuple sans religion, c'est-à-dire sans la notion du bien et du mal. Chaque peuple entend ces mots à sa manière. Les idées de bien et de mal viennent-elles à être comprises de même chez plusieurs peuples, ceux-ci meurent, et la différence même entre le mal et le bien commence à s'effacer et à disparaître. Jamais la raison n'a pu définir le mal et le bien, ni même les distinguer, ne fût-ce qu'approximativement l'un de l'autre. Toujours au contraire, elle les a honteusement confondus. La science a conclu en faveur de la force brutale. Par là, surtout, c'est distinguer la demi-science, ce fléau inconnu à l'humanité avant notre siècle, et plus terrible pour elle que la mer, la famine et la guerre. La demi-science est un despote, comme on n'en avait jamais vu jusqu'à notre temps. Un despote qui a ses prêtres et ses esclaves. Un despote devant lequel tout s'incline avec un respect idolâtrique. Tout, jusqu'à la vraie science elle-même, qui lui fait bassement la cour. Voilà vos propres paroles, Stavrogin. Sauf les mots concernant la demi-science qui sont de moi, car je ne suis moi-même que demi-science. C'est pourquoi je la hais particulièrement. Mais vos pensées, et même vos expressions, je les ai reproduites fidèlement, sans y changer un iota.
J'en doute, observa Stavrogin. Vous avez accueilli mes idées avec passion, et par suite, vous les avez modifiées à votre insu. Déjà, ce seul fait que pour vous, Dieu se réduit à un simple attribut de la nationalité.
Il se mit à examiner Chatoff avec un redoublement d'attention, frappé moins de son langage que de sa physionomie en ce moment.
« Je rabaisse Dieu en le considérant comme un attribut de la nationalité ?» cria Chatoff. « Au contraire, j'élève le peuple jusqu'à Dieu. Mais quand a-t-il été autrement ? Le peuple, c'est le corps de Dieu. Une nation ne mérite ce nom qu'aussi longtemps qu'elle a son Dieu particulier et qu'elle repousse obstinément tous les autres. Aussi longtemps qu'elle compte avec son Dieu vaincre et chasser du monde toutes les divinités étrangères. Telle a été depuis le commencement des siècles la croyance de tous les grands peuples, de tous ceux du moins qui ont marqué dans l'histoire, de tous ceux qui ont été à la tête de l'humanité. Il n'y a pas à aller contre un fait. Les Juifs n'ont vécu que pour attendre le vrai Dieu, et ils ont laissé le vrai Dieu au monde. Les Grecs ont divinisé la nature, et ils ont légué au monde leur religion, c'est-à-dire la philosophie de l'art. Rome a divinisé le peuple dans l'État, et elle a légué l'État aux nations modernes. La France, dans le cours de sa longue histoire, n'a fait qu'incarner et développer en elle l'idée de son Dieu romain. Si à la fin elle a précipité dans l'abîme son Dieu romain, si elle a versé dans l'athéisme, qui s'appelle actuellement chez elle le socialisme, c'est seulement parce que, après tout, l'athéisme est encore plus sain que le catholicisme de Rome. Si un grand peuple ne croit pas qu'en lui seul se trouve la vérité, s'il ne se croit pas seul appelé à ressusciter et à sauver l'univers par sa vérité, il cesse immédiatement d'être un grand peuple pour devenir une matière ethnographique. Jamais un peuple vraiment grand ne peut se contenter d'un rôle secondaire dans l'humanité. Un rôle même important ne lui suffit pas, il lui faut absolument le premier. La nation qui renonce à cette conviction renonce à l'existence. Mais la vérité est une, par conséquent, un seul peuple peut posséder le vrai Dieu. Le seul peuple déifère, c'est le peuple russe. Et se peut-il que vous me croyiez assez bête, Stavrogin ? Fit-il soudain d'une voix tonnante. Pour rabâcher simplement une rengaine de slavophilisme moscovite ? Que m'importe votre rire en ce moment ? Qu'est-ce que cela me fait d'être absolument incompris de vous? Oh, que je méprise vos airs dédaigneux et moqueurs! »
Il se leva brusquement, l'écume aux lèvres.
« Au contraire, Chatoff, au contraire !»
reprit du ton le plus sérieux Nicolas Vsevolodovitch, qui était resté assis.
« Vos ardentes paroles ont réveillé en moi plusieurs souvenirs très puissants. Pendant que vous parliez, je reconnaissais la disposition d'esprit dans laquelle je me trouvais il y a 2 ans. Et maintenant, je ne vous dirai plus, comme tout à l'heure, que vous avez exagéré mes idées d'alors. Il me semble même qu'elles étaient encore plus exclusives, encore plus absolues. Et je vous assure, pour la 3e fois, que je désirerais vivement confirmer d'un bout à l'autre ce que vous venez de dire. Mais il vous faut un lièvre.
Quoi ?
Chatoff se rassit. Je fais allusion, répondit-il avec un rire amer, à la phrase ignoble que vous avez prononcée, dit-on à Pétersbourg. Pour faire un civet de lièvre, il faut un lièvre. Pour croire en Dieu, il faut un Dieu.
À propos, permettez-moi à mon tour de vous adresser une question, d'autant plus qu'à présent, me semble-t-il, j'en ai bien le droit. Dites-moi, votre lièvre est-il pris ou court-il encore ?
N'ayez pas l'audace de m'interroger dans de pareils termes. Exprimez-vous autrement, répliqua Chatoff, tremblant de colère.
Soit, je vais m'exprimer autrement, poursuivit Nicolas Vsevolodovitch en fixant un œil sévère sur son interlocuteur.
Je voulais seulement vous demander ceci. Vous-même, croyez-vous en Dieu, oui ou non ?
Je crois à la Russie, je crois à son orthodoxie, je crois au corps du Christ, je crois qu'un nouvel avènement messianique aura lieu en Russie, je crois,
balbutia Chatoff, qui dans son exaltation ne pouvait proférer que des paroles entrecoupées.
Mais en Dieu, je croirai en Dieu.
Stavrogin resta impassible. Chatoff le regarda avec une expression de défi, ses yeux lançaient des flammes.
« Je ne vous ai donc pas dit que je ne crois pas tout à fait » s'écria-t-il enfin. « Je ne suis qu'un pauvre et ennuyeux livre, rien de plus pour le moment, pour le moment. Mais périsse mon nom, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous. Moi, je suis un homme sans talent, pas autre chose. Comme tel, je ne puis donner que mon sang, et bien qu'il soit versé. Je parle de vous, je vous ai attendu ici 2 ans. Voici une demi-heure que je danse tout nu pour vous. Vous, vous seul pourriez lever ce drapeau. »
Il n'acheva pas. Comme pris de désespoir, il s'accouda contre la table et laissa tomber sa tête entre ses mains.
« C'est une chose étrange, observa tout à coup Stavrogin, que tout le monde me presse de lever un drapeau quelconque. D'après les paroles qu'on m'a rapportées de lui, Pierre Stepanovitch est persuadé que je pourrais lever le leur. Il s'est mis dans la tête que je tiendrais avec succès chez eux le rôle de Stanka Razine, grâce à ce qu'il appelle mes « rares dispositions pour le crime ».«
Comment ?» demanda Chatoff.
« Grâce à vos rares dispositions pour le crime ?»«
Précisément. »
Est-il vrai que le marquis de Sade aurait pu être votre élève ? Est-il vrai que vous séduisiez et débauchiez des enfants ? Parlez, ne mentez pas ! Cria-t-il hors de lui. Nicolas Stavrogin ne peut pas mentir devant Chatoff qui l'a frappé au visage. Dites tout, et si c'est vrai, je vous tuerai sur place à l'instant même.
J'ai dit ces paroles, mais je n'ai pas outragé d'enfant, déclara Nicolas Vsevolodovitch. Seulement, cette réponse ne vint qu'après un trop long silence. Il était pâle, et ses yeux jetaient des flammes.
« Mais vous l'avez dit !»
poursuivit d'un ton de maître Chatoff, qui fixait toujours sur lui un regard brûlant.
« Est-il vrai que vous assuriez ne voir aucune différence de beauté entre la farce la plus grossièrement sensuelle et l'action la plus héroïque, fût-ce celle de sacrifier sa vie pour l'humanité ?
Est-il vrai que vous trouviez dans les deux extrémités une beauté et une jouissance égales ?
Il est impossible de répondre à de pareilles questions.
Je refuse de répondre,
murmura Stavrogin. Il aurait fort bien pu se lever et sortir, mais il n'en fit rien.
Moi non plus, je ne sais pas pourquoi le mal est laid et pourquoi le bien est beau,
continua Chatov tout tremblant.
Mais je sais pourquoi le sentiment de cette différence se perd chez les Stavrogin. Savez-vous pourquoi vous avez fait un mariage si honteux et si lâche? Justement parce que la honte et la stupidité de cet acte vous paraissent être du génie.
Oh, vous ne flânez pas au bord de l'abîme, vous vous y jetez hardiment la tête la première. Il y avait là un audacieux défi au sens commun, c'est ce qui vous a séduit. Stavrogin épousant une mendiante boiteuse et idiote. Quand vous avez mordu l'oreille du gouverneur, avez-vous senti une jouissance? En avez-vous senti? Petit aristocrate désœuvré, en avez-vous senti?
Vous êtes un psychologue,
répondit Stavrogin de plus en plus pâle.
Quoique vous vous soyez mépris en partie sur les causes de mon mariage. Qui, du reste, peut vous avoir donné tous ces renseignements?
Ajouta-t-il avec un sourire forcé.
Serait-ce Kirillov?
Mais il ne prenait point part.
Vous pâlissez?
Que voulez-vous donc? Répliqua Nicolas Vsevolodovitch, élevant enfin la voix.
Depuis une demi-heure, je subis votre knout, et vous pourriez au moins me congédier poliment, si en effet vous n'avez aucun motif raisonnable pour en user ainsi avec moi.
Aucun motif raisonnable?
Sans doute. À tout le moins, vous deviez m'expliquer enfin votre but. J'attendais toujours que vous le fissiez, mais au lieu de l'explication espérée, je n'ai trouvé chez vous qu'une colère folle. Ouvrez-moi la porte, je vous prie.
Il se leva pour sortir. Chatov, furieux, s'élança sur ses pas.
Baisez la terre, arrosez-la de vos larmes, demandez pardon,
cria-t-il en saisissant le visiteur par l'épaule.
Pourtant, je ne vous ai pas tué ce matin-là. J'ai retiré mes mains qui vous avaient déjà empoignées,
fit presque douloureusement Stavrogin en baissant les yeux.
Achevez, achevez! Vous êtes venu m'informer du danger que je cours. Vous m'avez laissé parler. Vous voulez demain rendre public votre mariage. Est-ce que je ne lis pas sur votre visage que vous êtes vaincu par une nouvelle et terrible pensée? Stavrogin, pourquoi suis-je condamné à toujours croire en vous? Est-ce que j'aurais pu parler ainsi à un autre? J'ai de la pudeur, et je n'ai pas craint de me mettre tout nu parce que je parlais à Stavrogin. Je n'ai pas eu peur de ridiculiser, en me l'appropriant, une grande idée, parce que Stavrogin m'entendait. Est-ce que je ne baiserai pas la trace de vos pieds quand vous serez parti? Je ne puis vous arracher de mon cœur, Nicolas Stavrogin.
Je regrette de ne pouvoir vous aimer, Chatov, dit froidement Nicolas Vsevolodovitch.
Je sais que cela vous est impossible, vous ne mentez pas. Écoutez, je puis remédier à tout. Je vous procurerai le lièvre.
Stavrogin garda le silence.
Vous êtes athée, parce que vous êtes un baritch, le dernier baritch. Vous avez perdu la distinction du bien et du mal. Vous avez cessé de connaître votre peuple. Il viendra une nouvelle génération, sortie directement des entrailles du peuple, et vous ne la reconnaîtrez pas. Ni vous, ni les Verkhovansky, père et fils, ni moi. Car je suis aussi un baritch, quoique fils de votre serf, le laquais Pachka. Écoutez, cherchez Dieu par le travail, tout est là. Sinon, vous disparaîtrez comme une vile pourriture. Cherchez Dieu par le travail.
Par quel travail?
Celui du moujik. Allez, abandonnez vos richesses.
Ah, vous riez, vous trouvez le moyen un peu roide. Mais Stavrogin ne riait pas.
Vous supposez qu'on peut trouver Dieu par le travail, et en particulier le travail du moujik?
Demanda-t-il en réfléchissant, comme si en effet cette idée lui eût paru valoir la peine d'être examinée.
À propos, continua-t-il, Savez-vous que je ne suis pas riche du tout, de sorte que je n'aurai rien à abandonner? J'ai à peine le moyen d'assurer l'existence de Marie Tipoufeyevna. Voici encore une chose. J'étais venu vous prier de conserver, si cela vous est possible, votre intérêt à Marie Timofeyevna, attendu que vous seul pouvez avoir une certaine influence sur son pauvre esprit. Je dis cela à tout hasard. Chatov, qui d'une main tenait une bougie, agita l'autre en signe d'impatience. « Bien, bien, vous parlez de Marie Timofeyevna, bien, plus tard. Écoutez, allez voir Tikhon. »
« Qui ?»«
Tikhon, c'est un ancien évêque. Il a dû quitter ses fonctions pour cause de maladie, et il habite ici en ville, au monastère de Sainte-Thime. »
« À quoi cela ressemblera-t-il »«
Mais c'est donc, c'est la chose la plus simple du monde. Allez-y, qu'est-ce que cela vous fait ?»
C'est la première fois que j'entends parler de lui, et je n'ai encore jamais fréquenté cette sorte de gens. Je vous remercie, j'irai.
Chatov éclaira le visiteur dans l'escalier et ouvrit la porte de la rue.
« Je ne viendrai plus chez vous, Chatov, »
dit à voix basse Stavrogine au moment où il mettait le pied dehors. L'obscurité était toujours aussi épaisse, et la pluie n'avait rien perdu de sa violence.